Et donc on va poursuivre, on a compris que le graffiti était donc à un premier temps en fait dans la structuration un peu de ce mouvement, que donc à ce moment-là, le hip-hop c'est vraiment quatre disciplines et qu'il y a à la fois le graffiti, tu as insisté sur le rôle de la danse, le rap et le DJing. Et donc il va y avoir, et le beatboxing aussi, et donc il va y avoir des émissions de radio qui vont être diffusées sur des radios underground dans les années 80-90. Tu en as cité quelques-unes tout à l'heure, Stardi. Et le carnaval aussi, qui va être un espace de prédilection où il va y avoir des événements qui vont être organisés autour de la culture hip-hop. Et donc, c'est dans ce contexte-là que va sortir, tu l'as évoqué et on a entendu tout à l'heure, le premier, tout premier album, en fait, enfin, vinyle, album de rap. Donc, c'est le groupe TNF pour The New Force. Et l'album s'appelait C'est ça qui la vit. Donc en 1989, tout à l'heure, on a entendu le son Hugo, hein, qui était donc un son en hommage, vous le savez, au cyclone Hugo. Et comme tu l'as précisé, il va ensuite falloir attendre 10 ans pour qu'il y ait un deuxième album de hip-hop qui paraisse et qui sera produit par Rico Debs. On va en parler dans quelques instants. Mais même s'il faut attendre 10 ans, en fait, pendant ces 10 années, il se passe des choses et il y a un mouvement underground qui est quand même très actif dans les années 90. Et c'est là qu'il va y avoir un collectif, le collectif Neg avant tout, le collectif de Warner, qui va mettre en place une émission radio sur Radio Tambou. Et cette émission, elle va structurer le mouvement hip-hop. Warner, est-ce que tu peux donc nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment vous avez mis en place cette émission et quelle était l'ambiance de ces émissions?
Alors juste avant de parler de cette émission, je voulais quand même souligner qu'il y avait eu d'autres émissions hip-hop hein, avec des invités aussi hein, sur divers radios, Cadence, Unité, Gaillac et aussi même Bazin FM avec Traffic Jam notamment. Alors, nous, on arrive un petit peu après. Quand je dis nous, c'est toute une équipe. Au départ, il y a DJ Malik Abdoul, que j'ai déjà présenté tout à l'heure avec le t-shirt blanc, là, dans la salle qui fait le discret, là, qui, lui, a la possibilité de rentrer en contact avec le patron de la radio, parce que, et aussi dans son cercle familial, notamment Dimitri et son frère qui étaient dans les parages, avaient aussi des émissions sur ces radios. Et donc, ça nous a permis de rentrer en contact avec le patron, lui présenter un projet. Le projet, il y a eu plusieurs projets. Donc, c'est Malik qui connaît vraiment hein, le fin fond de l'histoire, mais c'est passé par plusieurs étapes. En tout cas, ce qui a donné l'émission, on va dire, phare, c'est l'émission Freestyle 105 FM, tous les vendredis soirs, de 20h à des fois minuit passé. Ce qui nous a causé beaucoup de problèmes hein, entre-temps aussi, hein, puisque c'était dans la tour. La tour de Faidherbe à Pointe-à-Pitre. Il y a 15 ou 16 étages à monter. Il n'y a des fois pas l'ascenseur puisque nos chers amis hip-hoppeurs rentraient à 10 dans l'ascenseur, taguaient tous les escaliers. Des fois, on était à une trentaine dans la radio. C'était un peu compliqué à gérer, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça a permis de mettre en exposition de très nombreux groupes locaux qui chacun rappait dans leur côté ou dans leur cité, et ça leur a donné la possibilité d'avoir de l'audience, d'être écoutés ailleurs que dans leur quartier. Et donc, le principe de cette radio, c'est qu'au départ, DJ Roy, Malik, Bouddha et Moody Mike, ils mixaient, ils envoyaient du son un peu américain, français, histoire de mettre dans l'ambiance, et après, on laissait le micro, open mic, à qui veut prendre le micro. Il fallait avoir les capacités de tenir le micro, hein, parce qu'entre-temps, il y avait des gars comme Stargy, des gars comme Fokly, il y a eu des gars comme Edsonix. Il fallait quand même avoir un certain niveau pour pouvoir assurer, hein, quand même. Hein. Et si tu n'étais pas du niveau, on te le faisait savoir très vite. Donc c'était, on va dire, amical la plupart du temps. On a eu quelques incidents parfois, mais on a su gérer plus ou moins les crises. Cette émission, en tout cas, a permis pendant plusieurs années tous les vendredis soirs, de permettre au groupe de se représenter et surtout de progresser. Parce qu'il y avait une forme de concurrence sur le lieu où tu te disais si le vendredi là d'avant, je me suis fait clasher, vendredi prochain, à part moi quand ils pensent ça. Hein? Donc les gars, toute la semaine, ils prenaient leur bic, leur stylo, allez, ils commençaient à travailler pour revenir le vendredi d'après pour pouvoir être au niveau. Et donc c'est comme ça que ça a permis aux gens de progresser dans la team. Et un des groupes phares, on va dire, de cette émission, hormis le Karukera Crew, etc., Dafanchu de Bastia, etc., qui venaient chez nous, puisque quasiment tous les groupes de l'époque venaient, il y a eu Enoclan qui sortait du lot. Pourquoi ils sortaient du lot? C'est parce qu'ils étaient déjà nombreux, ils avaient chacun un style particulier, et il y avait un élément phare. Je pense que Rico va en toucher deux mots tout à l'heure, puisque l'élément phare, c'était Fokli. Et Fokli, il n'y a pas une semaine où il ne sortait pas un nouveau son, un nouveau texte, un brand new, comme on dit. Et à chaque fois, le truc était tip-top. Donc, les mecs qui venaient après transpiraient beaucoup. Donc, l'idée, c'était de venir avant. Donc, venir un peu plus tôt, prendre le mic, faire son truc vite. Et puis après, se tirer avant qu'ils prennent le mic. Parce qu'après, c'était compliqué. Et ça, c'était... Il y a des gars qui tenaient la route à Fokli, notamment Stargy. Stargy va en toucher, je pense, deux mots tout à l'heure, peut-être, mais c'était un peu sport. Erkar, Shelmy, des gens comme ça, on freestylait avec Fokli, mais il avait un level, quand même.